Chapitre 14e. L'effroyable mystère. On avait enlevé du bureau du banquier les corps de M. Castanier et de sa fille aînée Irma, découverts ici mystérieusement assassinés. Les corps des victimes de cet effroyable attentat reposaient maintenant dans leur chambre, dans l'hôtel de la famille Castanier, qui faisait suite à la maison où se trouvait la banque. L'enquête se poursuivait. Nous étions passés dans un petit salon des appartements mis à la disposition des magistrats. Jeanne Castanier, la sœur cadette de la victime, vint faire sa déposition. Le marquis Primo di Carmine Santucci l'accompagnait. Le marquis, fiancé de la morte, déposa en premier. Pendant qu'il parlait, je vis avec une extrême émotion que Martin Huma regardait avec une attention singulière les bottines de l'élégant gentilhomme. Je remarquai du même coup que le marquis portait des bottines vernies absolument neuves. Le dessous de ses chaussures n'était même pas éraillé comme il devait l'être après un peu d'usage, de marche. Mais notre attention fut aussitôt captée par la déposition de la jeune fille. À l'entrée des magistrats, Mademoiselle Jeanne, épongeant ses yeux et affermissant sa voix, dit en faisant appel à toute son énergie « Ma mère vous prie de l'excuser. Elle est souffrante, trop accablée pour pouvoir répondre à vos questions. » D'ailleurs, sa déposition ne serait d'aucune utilité. Je parlerai pour elle. Ma mère ne connaît rien de ce drame épouvantable avant le moment où on lui a fait part de l'affreuse nouvelle de la mort de mon père et de ma sœur. Je suis celle qui, plus que personne, puis vous renseigner. Je n'ai pas quitté la maison de l'après-midi. J'étais avec ma sœur jusqu'au moment où elle descendit auprès de mon père, et c'est moi qui suis entrée la première dans le cabinet de mon père. » La jeune fille acheva en éclatant en sanglots. « C'est moi qui ai découvert le drame, qui ai appelé au secours. » Morisson lui prit affectueusement la main. « Du courage, mon enfant, du courage !»« Mademoiselle, lui dit M. de Capestin, je m'efforcerai de faire concilier mon devoir de magistrat, pénible parfois, et les exigences de la justice avec les douceurs de l'humanité. Nous nous écarterons de cette scène pénible, de votre entrée dans le cabinet de M. votre père, et je vous demanderai seulement des renseignements aussi précis que possible sur les divers incidents, les heures qui précédèrent l'heure tragique, sur ce qui s'est passé chez vous pendant cet après-midi. Bien, monsieur. Nous ne prendrons qu'à partir du déjeuner. Qu'avez-vous fait au sortir de table? Comme tous les jours, on a servi le café dans le fumoir pour que mon père puisse fumer son cigare. Puis il est parti à ses occupations habituelles, ma mère est rentrée chez elle, ma sœur et moi nous avons fait un peu de musique. Puis le coiffeur est venu. Nous sommes montés dans nos chambres, nous préparer pour aller le soir à l'opéra avec ma mère. Monsieur de Santucci devait nous accompagner. « C'est exact, » fit le marquis. « Et quand je suis venu, j'ai trouvé toute la maison en émoi, en pleurs. » Le marquis cachait ses yeux remplis de larmes dans son mouchoir, déjà tout mouillé. Sa douleur paraissait très profonde. Jeanne Castanier reprit. L'heure arriva où Monsieur de Santucci, qui avait promis de venir de bonne heure voir sa fiancée, aurait dû être là. Ma sœur, qui aimait beaucoup son fiancé, ne le voyant pas encore, s'impatientait. « Chère âme, » s'écria le marquis, puis s'adressant à Jeanne. Cependant, l'affection que Mademoiselle Irma manifestait pour moi lui fit paraître l'heure de mon absence plus longue qu'elle ne l'était en réalité, car je suis venu à l'heure exacte. Hélas, c'était déjà l'heure douloureuse. C'est possible, en effet, fit Jeanne, je ne puis préciser. Dans ce choc formidable, j'ai perdu la notion du temps. Mais ma sœur, impatiente, voulait voir plus tôt son fiancé. Cela se comprend, pensant qu'il pouvait être arrêté en bas chez mon père. « Quelle idée ! » s'écria le marquis. « Pourquoi me serais-je arrêté chez M. Castanier ?»« Cela arriva plusieurs fois. »« C'est juste. Une ou deux fois, le hasard fit que je rencontrais mon futur beau-père dans l'escalier. Comme je montais chez Mme Castanier, il me fit entrer dans son cabinet, fumer une cigarette pour causer un peu de nos projets, de notre avenir, du bonheur qui s'annonçait pour Mlle Irma et pour moi. Mais ce fut un hasard rare, je le répète, et hier soir, hélas, il ne put se produire. » Il y eut, après ces déclarations, que le marquis acheva dans des sanglots, un court silence que le juge d'instruction rompit en demandant à la jeune fille « Ensuite, mademoiselle ?»« Ensuite, c'est tout, monsieur. Ma sœur descendit auprès de mon père. Alors l'heure s'avançait. Inquiète, à mon tour, je résolus d'aller voir pourquoi Irma ne revenait pas. Et j'entrai, en faisant mine d'être fâché, prêt à rire, à sauter au cou de mon père, de ma sœur. Quand j'aperçus mon père comme écrasé sur son bureau et ma sœur morte sur le canapé, j'étais un moment sans comprendre. J'appelais « Papa, papa, Irma !» Et je ne sais pas comment je ne suis pas morte, moi aussi, en me rendant compte enfin de l'épouvantable réalité. comme accablée par ce souvenir atroce, la jeune fille se laissa aller, dolente, sur la poitrine de M. Morisson, éclatant en énormes sanglots.
« Mon enfant, ma Jeanne, mon enfant !»
répétait le vieillard en la serrant tendrement. Et lui qui cherchait à la consoler, il pleurait aussi abondamment. Lentement alors, le juge d'instruction dit à la jeune fille
« En dehors de monsieur le marquis, dit Carmine Santucci, il n'est venu personne. »«
Non, monsieur, personne. » »«
Aucune visite pour madame votre mère ?»«
Ma mère ne recevait pas hier. Il n'est venu personne. » »«
Personne ne s'est présenté chez vous. Vous n'avez vu madame votre mère, mademoiselle votre sœur et vous absolument vu personne ?»«
Si, cependant, nous avons vu quelqu'un. » répondit Jeanne. « Nous avons vu quelqu'un. »
« Pourquoi n'en parliez-vous pas ?»«
Parce que, en est ici, cette personne se trouvait chez elle. »
Vous pouvez en ce cas me la nommer, mais parfaitement, c'est mon frère. »
Le juge d'instruction, surpris, s'écria « Votre frère ?»«
Charles, oui, monsieur. »
En même temps que le juge, le vieux caissier avait tressailli.
« Comment ? Charles est venu hier soir ici ?»«
Oui, il est venu nous voir, Irma et moi. » »«
Tu en es sûr, Jeanne ?»«
Voyons, tu ne fais pas erreur. Rappelle-toi, mon enfant, c'est bien hier que Charles est venu ici ?»«
C'était hier. Je ne puis faire erreur, puisqu'il nous a complimentés. » Irma et moi, sur la façon dont on venait de nous coiffer, il a pris du thé avec nous. »
Le vieux caissier insista nerveusement.
« Ce n'est pas possible. Tu dois confondre, je t'assure que tu fais erreur de jour. Ce n'est pas hier que tu as vu ton frère. »
Le juge d'instruction intervint.
« Je vous demande pardon, monsieur Morisson, mais je vous prie de laisser parler mademoiselle Castagnier en toute liberté. »
Et s'adressant à la jeune fille,
pour que la présence de monsieur votre frère hier chez ses parents produise une telle surprise à monsieur Morisson, il faut qu'elle soit peu fréquente.
Monsieur Charles Castagnier n'habite donc pas chez son père ?
Non, monsieur. Depuis plusieurs années, Charles habite en ville.
Le juge demanda.
Il n'existait naturellement entre lui et ses parents qu'un dissentiment.
Jeanne Castagnier hésita quelque temps à répondre. Ce fut monsieur Morisson qui prit la parole.
Le mot dissentiment n'est pas exact. Mais Charles, garçon très intelligent et cœur excellent, ayant un caractère très autoritaire, très violent comme son père, ne s'accordait pas toujours avec M. Castagnier, par ce fait même. Jeune, ardent, il avait des goûts d'indépendance et ne pouvait se soumettre à la volonté, parfois un peu trop sévère, je le reconnais, de son père. Mais Charles aimait beaucoup ses sœurs, sa mère, et il vénérait absolument son père, tout en regrettant de ne pouvoir se plier à ses exigences.
Fort bien. En somme, rien de grave ne le séparait de son père. Jamais il n'y eut entre eux de scènes un peu violentes.
Il y eut des scènes inévitables entre fils de millionnaires qui mènent la vie de, le mot est classique, de fils à papa, et un père qui, selon une autre expression énergique, est très dur à la détente. Voilà la vérité.
Il y eut un silence pendant lequel on entendait les plumes des secrétaires grincer sur le papier. Chacun comprenait que ces paroles étaient sérieuses, que ces déclarations étaient graves.
Monsieur de Capestin, cependant, après un court silence, parut prendre une décision. « Je vous remercie de ces renseignements, » dit-il à monsieur Morisson, et il s'adressa à mademoiselle Castagnier. « Donc, mademoiselle, la présence de monsieur votre frère chez ses parents n'est qu'une coïncidence sans conséquence. Mais cependant, permettez-moi de vous demander si rien dans l'attitude, la physionomie, les paroles, enfin, de votre frère, n'a attiré votre attention ?»«
Non, monsieur. » Charles, avant de venir chez nous, avait eu un entretien avec notre mère. Il avait cet air triste et préoccupé que nous lui connaissions depuis quelque temps et qui nous peinait, car nous l'aimions beaucoup. Nous savions, pour l'avoir entendu dire par notre père à maman, qu'il avait besoin d'argent.
Le caissier sursauta.
« Jeanne » fit-il. « Jeanne !»
Mais le juge d'instruction lui fit signe de ne pas interrompre et la jeune fille continua, sans se douter de la portée de ses paroles.
Charles nous dit qu'il était désespéré, qu'un événement s'était produit dans sa vie, qu'il acculait aux pires extrémités.
« Jeanne !»
supplia M. Morisson. Il fallait qu'il sortît à tout prix de cette impasse, qu'il était pris à la gorge, menacé d'un effondrement.
Irma lui dit alors qu'elle parlerait pour lui à notre père. Elle espérait qu'à l'occasion de son mariage, notre père se laisse réfléchir et qu'il accorderait à Charles ce dont il avait besoin.
« Oui, c'était bien là le cœur de ma fiancée. » soupira le marquis, et moi-même je me proposais d'intervenir.
Le juge d'instruction dit alors à Jeanne, « Et cette espérance ne calma pas votre frère ?»
Charles dit à ma sœur qu'il la remerciait de son intention, mais qu'il ne pouvait attendre jusqu'à cette date. C'était tout de suite, aujourd'hui même, qu'il lui fallait ce qu'il demandait. Il allait tenter une nouvelle démarche auprès de son père, et s'il n'obtenait pas une solution favorable, alors il arriverait un malheur.
Monsieur Morisson éclata, «
Jeanne, malheureuse enfant, tais-toi, tu condamnes ton frère. »
Jeanne, qui parlait, gardant la tête baissée et plongeant ses yeux à tout instant, releva vivement le front à ces mots. Elle ne comprenait pas.
« Tu viens d'accuser ton frère. »«
Accuser mon frère? Accuser de quoi ?»«
Mais de l'assassinat de ton père, de ta sœur Irma. »«
Allons !» s'écria Jeanne, indignée.
« C'est impossible !»«
Accuser Charles de ses crimes, de cette monstruosité. »«
Allons, allons, c'est fou, c'est impossible. »«
Tu l'accuses? Tu l'accables ?»«
Charles, mon frère, un assassin? Non, non !»«
Chacune de tes paroles est une preuve contre lui. » Mais tu n'as donc pas compris, tu n'as pas vu, pauvre enfant, que tu t'établissais contre ton frère le plus impitoyable des réquisitoires.
Comment cela? Mais la conclusion de tes paroles est que ton frère avait besoin d'argent, qu'il est allé en demander à ton père, et qu'il a obtenu une solution au prix d'un meurtre, d'un double assassinat. Voilà ce que disent tes paroles. Voilà ce que viennent d'entendre les juges. Voilà comment tu t'es faite l'accusatrice inconsciente de ton frère.
Jeanne alors comprit tout à coup. Une lueur se fit dans son esprit voilé par la douleur. Elle poussa un cri terrible.
« Oh, c'est vrai. J'ai dit cela.
C'est vrai. Oh, c'est la perte de Charles. J'accuse mon frère. » Et comme folle, nerveusement, elle vint devant la table de M. de Capestin avec des cris de douleur, se tord dans les mains et désespérée, elle supplia.
« Non, non, messieurs, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien dit, je mentais. » Charles n'est pas venu hier. Morisson a raison, je confonds, ce n'est pas hier. Mon frère est incapable de commettre un crime. Non, mon frère n'a pas tué ma sœur Irma. C'est impossible, c'est fou, il n'a pas tué mon père. Charles n'est pas un voleur, ce n'est pas un assassin.
Dans l'excès de sa douleur, elle se penchait sur la table, devant le juge, devant le chef de la sûreté, comme pour leur faire mieux entendre ses paroles. Mais la secousse était trop forte pour la frêle organisation de la jeune fille, depuis hier si grandement ébranlée. Ses dernières paroles furent comme étranglées dans sa gorge serrée par l'angoisse, par l'horreur de cette situation. Elle manqua de respiration et tout à coup chancela et se fut écroulée à terre si Martin Numa ne s'était précipité et ne l'avait reçue dans ses bras.